Vous écoutez Les Contes de la Cité Ouest. Troisième épisode. Pablo Escobar numéro 2.
Tu te souviens, c'est plus petit ça.
Sûr, bien sûr. Mais tu sais que moi j'avais ces photos, je sais pas où elles sont passées, mec. J'ai exactement ces photos normalement. Moi, exactement celle-là. Avec Kenny, tu sais. C'est le seul qui regarde pas la photo, tu sais. Elle, je l'adorais, cette dame. Non, mais c'est incroyable.
Une vieille photo de classe où t'apparais.
Ouais, c'est possible.
Et où j'apparais aussi.
Ouais, puis c'est foutu de ma gueule sur la photo. Classique. Je suis avec mon pull rayé là, je suis le blond avec le pull rayé.
Ouais, alors il s'est foutu de toi parce qu'il a dit regarde, Kenny, c'est le seul qui regarde à côté.
Bah ouais, je regarde la gonzesse quoi. Ouais, quelle époque. Je suis le seul qui regarde à côté. Mais toi, t'étais déjà grand pour l'époque, hein. C'est Marie-Claire derrière. Marie-Claire, il y a Sébastien Martin, Céline Pitari. Excellente cette photo. Julien Fietta, ouais. Putain. Ouais, j'arrive pas à mettre le prénom sur tous les visages, mais je me rappelle que moi j'ai ramassé avec cette maîtresse, même déjà à cet âge-là.
Dans le sens où elle était sévère avec
moi. Ouais, je trouve qu'elle était sévère avec moi. Pas méchante, mais peut-être un peu trop suisse-allemande sur les bords.
Du coup, ça c'est Xenia, toi, Marlène, Didier, Guillaume, Stéphania, Jonas, Elodie, Florian, moi, Corinne, Kevin, Michael, Stéphanie Manachon, Alizé, Jack, Christophe et puis Ariane.
Moi, je me rappelle surtout du collège des Perreret, quoi. C'est un collège mythique, en fait, à Gland, ce collège, quoi. Ouais, bon, le collège de Grandchamp aussi, il est mythique, quelque part, pour les activités qu'on y faisait.
Bah, moi, je me souviens beaucoup de... Quand on était au collège des Perreret, du fait qu'on jouait au foot avec la plupart des... Je jouais avec la plupart des garçons de la classe. Et c'est ça qui m'a après amené à me retrouver dans l'équipe de foot qui était entraînée par le papa de Jacques Alain, et il y avait une bonne partie de ceux de la classe, et puis également Christian. Et sinon, oui, je me souviens pas mal de fois en classe, où notamment avec Madame Police, Madame Bender, où il y avait un peu du grabuge, où Christophe était souvent dans les amuseurs de service ou dans ceux qui rigolaient, avec Jonas qui riait très fort.
Et aussi, ce que je me souviens, c'est que à la natation, il ne savait pas nager. Qu'est-ce qu'on faisait en classe? Bon, clairement, au début d'année, on devait tous dessiner notre sous-main, ça s'appelait. Et... c'était une occasion de faire parler à notre créativité. Et je crois que tous les gars, ensemble, notre objectif, c'était de dessiner des scènes de guerre qui se passaient soit sur des bateaux pirates, soit sur des châteaux forts, soit c'était en mode première, deuxième guerre mondiale, avec plein de gens qui se tiraient dessus, en tir croisé, et il y avait tout le monde qui décédait, je pense, dans cette scène. Il n'y avait pas un vainqueur et un loser. C'était 100% de mortalité. Et ouais, on aimait bien faire ça.
Bonjour, alors je m'appelle Martine Polis. Et j'ai été institutrice pendant un peu plus de 38 ans à Gland. J'ai vu défiler beaucoup, beaucoup d'enfants. Et justement, c'est pas toujours facile de se souvenir de chacun. On se souvient bien, en voyant des images de leur visage, mais on ne se souvient pas de toute leur personnalité. À l'époque, nous étions donc deux institutrices pour cette classe. Nous étions chacune à 50% avec Madame Karine Bender. Et nous collaborions bien, c'était sympa. Je me souviens juste quand même globalement d'une chose, c'est que cette classe-là était quand même pas mal bruyante. On ne peut pas dire qu'il y avait des grands moments de calme, c'était plutôt une sorte d'excitation qui montait, mais il y avait des, ben, comme toujours, des jours faciles où tout le monde travaillait bien, qu'on se sentait à l'aise, et d'autres jours où on arrivait et qu'il y avait déjà une sorte d'excitation qui montait et que c'était plus difficile.
Bon, la fameuse fois où Madame Police a traîné Thomas Schilliger dans l'ensemble de la classe. Et s'est ensuite absenté de la classe pour aller pleurer dehors pendant qu'on était tous morts de rire. Ça, c'était un des moments phares de la première année.
Parce qu'il me semblait qu'une fois Madame Police, elle avait sorti Thomas Schilliger ou Julien Schmitt en le traînant par les pieds. Donc elle l'avait sorti de la classe parce qu'il ne voulait pas sortir de lui-même et il empêchait le cours. Et lui, il s'était agrippé aux tables et aux chaises qui lui passaient à portée de, ouais, qui étaient à portée de lui. Et du coup, on était tous en train de mater ça. Et je me rappelle que souvent, on était quand même un peu tous à se marrer. Mais là, moi, personnellement, je m'étais dit, je crois que ça va trop loin. pas forcément parce que la prof, elle le traînait par les pieds, mais la globalité de la situation, je m'étais dit, c'est quand même, ça va trop loin pour qu'une prof doive tirer un élève par les pieds pour qu'elle puisse faire son cours et que, je sais pas, pour que lui la respecte. Parce qu'elle, elle était aussi en train de pleurer quand elle le faisait, donc c'était clairement à contre-cœur. Ouais, c'était allé trop loin là.
Après, l'autre jour, j'ai retrouvé des photos de classe, justement, quand tu m'as appelé pour voir un petit peu qui avait dans le quartier à l'époque. Et ouais, alors, vraiment, à l'école, il y a peu de souvenirs. Je me rappelle au Perreret, toi, tu étais au Perreret aussi, et donc, tu vois, l'entrée, là, il y a l'entrée vers la cour. Avant la première entrée du bâtiment à gauche, il y avait une fenêtre, une vitre, là, il y avait un petit rebord sur le muret, là. Je me rappelle avec Christophe tout le temps, on se retrouvait sur ce muret, puis le jeu, c'était, on était dos au mur, donc sur un petit muret de, je sais pas, à peine 10 cm de long, plaqué contre la vitre, et on jouait, le but c'était de se tirer en bas comme ça, en se prenant le bras, puis bah, ceux qui tombaient, ils perdaient, quoi. Et on se faisait engueuler par le concierge presque tous les jours, quoi. Ouais, ça c'était marrant.
Je me rappelle de jeux qu'on faisait dans la cour d'école où on devait monter sur un muret et une personne contre une autre personne, on devait se tirer sur la main droite, souvent c'était, pour faire tomber l'autre du muret.
Puis ben ouais, heureusement on était à l'école ensemble et au final on était quand même pas mal nombreux de la cité ouest à aller tous à l'école. On était même dans la même classe. Là. Regarde, là, c'était Florian Brilly, il habitait dans ma tour. Bah, Christophe Mutino, il habitait dans ma tour.
Lui, je me rappelle qu'il a commencé, elle est sortie de l'école. Alors, ouais, lui, c'était plus au niveau comportement, hein. C'était toujours un cancre. Il avait des problèmes avec ça, mais je veux dire, il a toujours été très fort, quoi. Enfin, il avait vraiment pas de peine à apprendre et tout ça.
Maintenant, le souvenir que j'en ai comme petit garçon de 7 ans, je revois un enfant très doux, très très gentil, vraiment pas excité, et parfois avec un regard coquin, un petit peu farceur, très, très calme, mais quand même un petit peu farceur. Et en tout cas, c'était un élève qui avait certainement beaucoup de qualités comme chaque personne, mais il était un peu timide et je pense qu'il ne se faisait pas tellement remarquer. Voilà, c'est le souvenir que j'en ai maintenant.
Dans les maths, il était trop fort. Il avait un raisonnement mathématique, je ne sais pas si tu te rappelles, il était assez fort dans tout ce qui était calcul, mentaux et tout ça. Très, très facile avec les chiffres.
Christophe, il faisait tout mieux que les autres. Tout ce qu'il a fait, il le faisait mieux que les autres. Après, même dans les conneries, il a réussi à faire mieux que les autres. Mais non, mais très sincèrement, tout ce qu'il faisait, il faisait mieux que les autres. Même très tôt, dans sa manière de s'exprimer, etc., c'est quelqu'un qui s'exprimait hyper bien, qui parle très très bien français, on va dire, dans un langage soutenu. Et c'est quelque chose, par exemple, sur ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment pris exemple sur lui. Parce que je voyais toujours qu'il faisait attention à ce genre de petits détails. Quand on était ensemble et qu'il entendait quelqu'un qui disait « si j'aurais », il disait « non, c'est si j'étais ». Si j'étais, c'est vrai, il avait raison. Si j'étais, ok. Tous ces petits détails, il faisait attention. Et c'est pour ça que je te dis qu'il faisait tout mieux que les autres parce que tout le monde voulait rester avec Christophe. Tout le monde voulait être ami avec lui. Il faisait absolument tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il entreprenait, il faisait mieux que les autres. S'il voulait jouer au foot, il faisait mieux que les autres. Dès qu'il s'agissait de style vestimentaire, il faisait mieux que les autres. Dès qu'il voulait faire du basket, s'il se mettait au basket, il allait faire mieux que les autres. Même à l'école, hein. À l'école, franchement, c'était quelqu'un de... Après, voilà, il a fait des bêtises qui ont fait que... Peut-être que ça n'a pas suivi derrière, mais à l'école, c'était quelqu'un de très, très intelligent. C'était une tête, Christophe.
Exactement. Il était trop malin. Même à la triche, il trichait trop bien. Il était fort en tout. Tout ce qui touchait, il était fort.
Je pense que quelqu'un avec un minimum... Enfin, nous, on était enfants, mais je pense même... Du coup, c'est difficile de parler du point de vue d'un adulte pour cette période-là, mais je pense que quelqu'un avec un minimum de sensibilité aurait vu que c'est un gamin qui va pas très bien, et pas juste un gamin qui veut foutre la merde pour foutre la merde, surtout que, comme je dis, enfin, il y avait plein de moments où il pouvait être très bien et chouette, et je pense même... qui participait bien en cours, enfin, même juste le fait qu'il était en VSG, ça montrait ça, parce que enfin, c'était quand même un système assez violent, ce truc de VSB, VSG, VSO qu'on t'orientait en 5-6e année. Je veux dire, moi, plein de gens avec lesquels j'étais en 5-6e, ils étaient de loin pas moins intelligents que moi, enfin que nous, et ils ont été orientés en haut, j'imagine, pour des raisons de comportement ou de... Bah, peut-être que quand ils avaient 11 ans, ils en avaient rien à faire de leurs devoirs.
Ouais, après, c'était un peu bizarre, je sais pas quel... Après, ça a commencé à devenir un peu la guéguerre entre les clans, ceux qui étaient en VSB, ceux qui étaient en VSO. Et du coup, on traînait plus trop ensemble, en fait.
Et le truc, c'était quand même, comme je disais, c'était quand même perçu comme assez imperméable après ces classes. Et rien que le fait qu'il ait été orienté en G, dans un système qui était quand même très, très... Enfin, très sélectif ou très sévère à l'encontre des enfants, ça montre déjà que enfin, même l'institution scolaire voyait qu'il était très intelligent et c'était pas quelqu'un de bête et méchant, juste avec des problèmes à l'extérieur de l'école qui lui permettaient pas de se concentrer ou qui faisaient qu'il avait beaucoup de peine à se comporter. Voilà, il était juste en colère et triste, enfin, ça se comprend. Et je pense qu'il y a des profs qui voyaient et qui essayaient de faire leur possible et avec lesquels ça se passait à peu près. Mais même, enfin, ça, c'était quand même aussi des histoires qui tournaient, qu'il avait quand même eu aussi des grosses crises de colère à l'école, enfin, à genre lancer des trucs, enfin, quand ça se passait mal avec des profs. Et je sais pas si ça s'est passé qu'avec des profs qui étaient méchants et pas compréhensifs, ou si des fois, ça lui faisait juste trop, puis même avec quelqu'un de plus gentil ou de plus, ça pouvait tout à coup péter. Et aussi, peut-être même pas à cause de quelque chose que faisait le prof, mais je crois que des fois, à cause de quelque chose que quelqu'un d'autre avait dit.
Voilà, les premières images que j'ai, c'était un peu le jeune rebelle que ma mère, elle coursait quand j'étais vraiment gamin, pour le coup. J'avais jamais conversé avec ou quoi, mais c'était les premières images que j'avais de Christophe.
Bah pour moi, si on peut dire, faut pas avoir peur des mots, c'était un peu la racaille. La racaille de gland, ouais, qui connaissait tous les grands. Et puis qui était assez respecté. Donc c'était pas du tout quelqu'un que les gens allaient embêter, si on peut dire. Et puis non, mais autrement, moi, j'ai jamais eu de soucis avec. On s'est toujours bien entendu. Et c'est vrai que bah, après, avec l'âge, bah, forcément, les choses évoluent quand même de tous les côtés. Donc ouais, bon, moi, l'image que je garde de lui, c'était vraiment ouais, le gars respecté de gland, quoi. Dans les histoires, fallait pas le chercher, quoi.
Ben, de rebelle, franchement. Bien... bien teigneux et pas toujours dans des affaires très nettes, quoi. Mais ouais, un peu trop teigneux pour moi, enfin, pas qu'il me faisait peur, mais ouais, j'aurais pas trop aimé m'embrouiller avec lui à ce moment-là, tu vois.
Non, ensuite, quand on se voyait, on se parlait, tu vois, comme des gens qui s'apprécient, non, on s'est un peu perdu de vue. Ensuite, ouais, il a redoublé, il est tombé dans la classe à ma sœur, donc ma sœur aussi, elle l'a bien connu, à une époque un peu plus récente que la mienne. Mais ouais, non, on s'est un peu perdu de vue depuis. Je sais pas, il était quand même un peu connu dans le quartier, ouais. Plus que ça, j'ai pas vraiment de détails de ce qu'il faisait avec son groupe de potes.
Je me souviens qu'on le croisait toujours dans la cour de récré, à la Cité Ouest. Et puis moi, je me souviens surtout ado, quand on sortait à Nyon, qu'on allait... le vendredi et le samedi, boire des bières, qu'il y avait un peu une faune à la gare de Gland, et puis le fait de connaître notamment Christophe et puis Thomas Schilliger qui nous saluait. J'étais souvent avec Jonas, que plusieurs fois où c'était un peu des situations pas très agréables, où il y en a qui étaient un peu qui cherchaient la merde, que ça nous a un peu protégé de connaître Christophe, et puis que lui nous a toujours gentiment salué quand on avait besoin. Ça, je me souviens.
Christophe, et puis je suis allé les premières fois chez lui parce que voilà, on avait des potes en commun et que moi j'étais le petit frère. Je traînais avec les petits frères. Et puis c'était dans le cadre de il dealait pas mal à la Cité Ouest. Honnêtement, je sais même pas pourquoi on y allait. Je pense que c'était plutôt pour être avec les grands. Et puis je pense qu'il y avait un côté un peu excitant à aller chez lui ou à un truc un peu de reconnaissance, j'en sais rien. Mais voilà, c'était les premières fois où il y a eu un peu des vrais échanges. Non, en fait, c'était ultra connu, et surtout pour les plus petits, je pense. J'imagine que... Et oui, peut-être aussi pour les plus grands. Mais en soi, c'était ultra connu. Je sais pas comment le dire autrement. En fait, y avait un peu un réseau qui s'était établi, moi j'étais pas dans son cercle premier, alors je sais pas exactement comment ça se faisait, même si j'ai peut-être une vague idée comme ça, parce que je connaissais, on traînait avec certaines personnes en commun. Mais en soi, je sais que tout se passait plus ou moins chez lui, qu'il y avait eu plusieurs fois des descentes de flics, que la tour dans laquelle il a grandi, il y avait pas mal... de consommateurs, et il y avait pas mal de deals, et que lui il chapeautait un peu tout ça, et nous on traînait pas mal aussi en bas de cette tour. Et voilà, moi maintenant avec mon regard d'éducateur social, j'arrive aussi à comprendre la raison du pourquoi on traînait en bas de cette tour, mais à l'époque je le comprenais pas directement, et je pense que c'était un peu le premier rempart à si jamais il y avait les flics qui débarquaient ou j'en sais rien. Mais c'était on s'appropriait l'endroit en fait au fur et à mesure, et je pense que lui, c'était une plaque tournante dans la région.
Ouais, j'ai plein de souvenirs du genre. Je me souviens de la première fois que j'ai fait fumer un joint à Christophe. Et puis après, il était en PLS. Je l'ai laissé dans mon canapé, quoi. Il ne bougeait plus. Je sais plus si c'est le soir. Après, on devait aller au Paléo. En tout cas, on est allé au Paléo. On s'est bien marré au Paléo.
Après, ben, je crois que c'est moi qui lui a fait fumer le 1er juin sur, sur le toit de la Cité Ouest. Je crois qu'il a tiré une barre juste avant d'aller à l'école. Je sais pas, il était complètement défait.
Parce que honnêtement, il a dû commencer à fumer des joints vers 13 ans, 14 ans. D'ailleurs, ses premiers joints avec Neil. Lui-même te racontera ses premiers bad trips avec Christophe dans des caves. Et je sais que lui a commencé très tôt et a très tôt a voulu commencer. Elle s'est dit, bon, faut que je vende pour pouvoir fumer, quoi. Parce que t'as pas d'argent quand t'es... Enfin, tu vois, t'as 15 ans, tu travailles pas forcément. C'est pas son père qui a donné de l'argent, hein. Donc il s'est dit, ouais, je vais commencer à essayer de vendre, quoi. De trouver des grands qui me font des crédits. Tac, tac, j'arrive à vendre ça, j'arrive à rembourser le crédit, j'arrive à me faire un peu d'argent. Il a commencé comme ça. Puis petit à petit, il a monté un peu les échelons. Puis après, il s'est dit, oh, bon... Et si je vendais pas des kilos, ça va plus vite quand même.
Bon, au début, c'était pas, enfin, c'est pas trop des trafics. Enfin, d'abord, c'était d'abord pour s'éclater, s'amuser, ils jouaient ensemble, ils traînaient en fait, ils traînaient. C'est ça, à l'arrêt de bus. Après, leur trafic, je pense, c'est un peu comme dans tous les villages, toutes les villes. Voilà, il y a des groupes de personnes. Ça, j'aidais pas trop. En tout cas, il était toujours souriant à venir me dire bonjour quand il me voyait ou on se croisait. Donc, moi, il y avait. Puis avant tout ça, il y en avait ras-le-bol parce que ben, quand ils étaient avec Christophe, ou Christophe et Christian ensemble et qu'ils faisaient pas ces conneries et tout, ben, il se faisait tout le temps arrêter lui et Christian jamais. Parce que Christian, il avait la peau plus blanche. Et Christophe, il avait la peau un tout petit peu plus foncée comme métis. Et lui, vu qu'il s'habillait bien, un peu yo, machin, et on disait yo à l'époque. Enfin, qu'il s'habillait un petit peu plus racaillon. Ben lui, il se faisait tout le temps arrêter par la police. Qu'il ait rien du tout, qu'il ait des clubs, qu'il ait machin. Qu'est-ce que vous faites là, nanana à 8h le soir, à 10h le soir, à 5h l'après-midi. Donc, ouais, au début, je pense que c'était plutôt ça, la discrimination qui l'embêtait le plus possible. Et puis, est-ce que c'est ça qui l'a poussé aussi un peu à se venger, à faire des conneries? Ça, je ne sais pas.
En fait, quand il vendait la bœuf, quand il vendait la bœuf, on arrivait au quartier. Et dans le quartier, il y avait Grand Champ. C'est une école. Et dans cette école, il y a deux terrains de foot. Un terrain de basket et un terrain de foot. Et entre les deux, il y avait une table de ping-pong. On était tout le temps là, en fait. Tout le temps là. Et sur les côtés, vers les murs, il y avait des feuilles. L'automne, quand elles tombent. En fait, ça, c'était choquant parce qu'il débarquait avec son sac rempli de bœufs. Son sac de la Coop ou de la Migros, hein. Rempli de bœufs, et il cachait les packs sous les feuilles pour rien avoir sur lui. Et les gens, ils venaient toute la journée. Mais toute la journée, ils venaient et ils vendaient ça à coût de 50 francs. Mais quand je vous dis, c'était de 11h le matin jusqu'à 7h le soir. Et toute la journée, c'était ça. Après, pas tous les jours, bien sûr. Mais ouais, ça débitait, quoi.
Moi, j'ai un peu des souvenirs que tout d'un coup, il y avait des sacs de weed dans des arbres à Grand Champ. Parce qu'il y en avait trop, quoi. Ça, je sais pas si je tripe de cette époque-là, mais vraiment, hein, j'ai un souvenir qu'il y a eu des fois où il y avait des sacs avec de la weed dans les arbres, quoi. Pour planquer des flics. Je te jure, hein, l'été. Hein.
Christophe, très jeune, non, je dirais que très tôt, il a été dans le business. Il était dans des business illégaux très rapidement. Il traînait aussi avec des personnes plus âgées que lui qui le mettaient pas forcément dans le droit chemin aussi. Il a fait partie d'un groupe de personnes qui avaient la main verte Du coup, il a vite été dans le trafic d'herbes, très rapidement. Il avait énormément de contacts. Bon, après, il faut dire que Gland, c'est une petite ville, donc tout le monde se connaît. S'il y a une personne qui fait du business à Gland, enfin une grosse personne qui fait du business à Gland, tout le monde peut venir, tous les habitants de Gland peuvent venir chez lui pour venir chercher. Il n'y en a pas 14, quoi. Enfin, à l'époque, maintenant peut-être que oui, mais en tout cas pas à l'époque.
Avant lui, il y avait déjà quand même quelqu'un qui faisait de la bœuf. Avant Zouz, on est bien d'accord. Il y avait des plus grands que Zouz encore. Et bah, c'est là qu'il a commencé à comprendre comment ça se passait. Et puis c'est aussi la fréquentation avec qui on restait. Bah, c'est qu'il a pris goût, tout simplement. Au début, il faisait des petits problèmes quand il était jeune. Et à force de traîner avec des gens qui faisaient un peu de trafic, bah, il y a pris goût. Mais je pense que Glenn, encore une fois, c'est petit. Hein. Tout le monde savait qui faisait quoi. Au fond, la police aussi, je suis sûr qu'ils savaient tout, mais ils ferment un peu les yeux, c'est de la bœuf, c'est pas un crime, quoi. Et du coup, mais moi, je suis sûr que s'ils auraient vraiment voulu, ils auraient fermé tout, puis ciao.
Je me rappelle, il y avait des sacs chez lui de 110 litres à l'époque avec du cannabis dedans. Et chez lui, c'était vraiment la passe. C'est, tu arrives, le client rentre, tu veux combien? J'ai 50 balles. Tiens, le truc, il partait. Ça durait 1 minute 30 pour les gens qui l'appréciaient pas trop. Ça durait 10 minutes pour les gens avec qui il avait un petit peu plus de feeling, juste histoire de discuter, etc. Qu'est-ce que t'as fait ce week-end, etc. La vie, la famille, tout va bien.
Je sais même comme il faisait pousser sa bœuf dans des box, il louait des chambres chez des potes, il faisait ses petites installations. Il était très, très, très. Il savait comment faire sa petite installation automatique, avec l'arrosage automatique, comment faire pousser avec les filtres à charbon pour rien que ça sente. Et il faisait. Justement, il louait des chambres, plusieurs chambres, et il faisait pousser sa bœuf.
Et puis pour les gens comme moi, par exemple, qui ne consommaient pas, alors moi j'ai toujours traîné avec des gens qui buvaient, qui fumaient, mais j'ai jamais fumé et jamais bu. Cigarette, ça compte pas. Voilà. J'étais toute la journée avec Christophe, devant ses actions, ses transactions, ses trucs qu'il faisait, etc. Et je voyais c'était déjà une mini-entreprise. Il y avait déjà des gens qui partaient avec une petite sacoche et puis des trucs à les vendre à gauche, à droite. Ils ramenaient une liasse, une grosse liasse de billets. Ils disaient, tiens, tu peux garder ça en pourboire, etc. C'était exactement le trafic qu'on voit aujourd'hui dans les cités à Marseille, mais à échelle réduite, quoi.
Ouais. Mais bon, Zouz était très fort dans ce domaine-là, quand même. Ça lui allait bien. Je faisais pas niquer, tu vois. En plus, c'était pas quelqu'un qui. Tu le connais, c'est pas quelqu'un qui fait non plus extrêmement peur, tu vois. Tu le vois, t'es pas. Oh, mon Dieu, il me fait peur, le gars, tu vois. Mais c'est quelqu'un qui est très fort dans les affaires, tu vois. Il sait bien parler. Enfin, maintenant, il a un peu plus de peine, mais je veux dire, à l'époque. Il avait. Ce petit côté égyptien, ça. Petit côté égyptien, ça fait tout, quoi. Ça fait tout. Mais ouais. Alors, je pense qu'il aurait pu être très fort là-dedans. Pablo Escobar, numéro 2.
Ouais, il a toujours été. Ouais, c'est un mec, il est. Ah, il aime le cash, hein. À un moment donné, il en avait dans sa vie. Je me souviens qu'il y a eu un délire à Lausanne à l'époque. On a débarqué. Un matin, j'avais les cheveux. J'étais décoiffé. J'étais en survêt complet avec les autres. On a débarqué avec une M3 décapotable chez Louis Vuitton. Et ils ont vu qu'on était des gamins et tout. Puis, il était venu, puis il s'achetait des paires de lunettes comme ça, machin, comme si de rien n'était, quoi. Le gars, il vit la vie, mais à fond, quoi. Ça nous avait proposé des cafés et tout ça, là, c'était lourd. D'ailleurs, il est toujours un petit peu dedans. Il a plein de lunettes Cartier. Il collectionne un peu tout ça et tout. Ouais, il aime bien. C'est un gars, il est raffiné. Il était, mais il a toujours été un peu. On était les deux seuls un peu quand on était petits à traîner avec les grands tard la nuit et tout. On avait déjà pas trop de limites de son côté comme du mien. On était vraiment. C'est ça aussi qui nous liait. C'est que quand, bah, je sais pas, quand t'as 12, 13 ans, 4, 12, 13, 14 ans, tu peux pas rester dehors jusqu'à des minuit, 3 heures du matin avec les plus grands de la cité, tu vois. Bah lui et moi, oui, on pouvait, tu vois, on restait, machin. On restait. Ça nous a lié aussi, je pense, ce côté-là de. D'être libre comme ça, quoi. On était souvent ensemble pour ça. Mais c'est vrai que. Ouais, pas trop de limites, Zeus, quand il était petit, il était bien, bien chaud. Ouais. Après, ouais, comme on disait, c'est pas un caïd, c'est pas un voyou et tout ça, mais c'est un mec. Il fait un truc, il fonce. Tu vois,
c'est ça, ouais. Il a toujours rêvé d'argent, il a toujours voulu être riche. Et il l'a toujours dit, et ça, il me le répète encore aujourd'hui. Il me dit toujours, on va devenir riche. Oh, je sais pas quand, mais un jour, oui. Parce qu'il est, il a toujours voulu être riche. Il a toujours aimé avoir de l'argent sous les mains. Toujours.
Et on voyait ce qu'il faisait, on voyait, voilà. Mais on n'était pas là-dedans. On n'était pas là-dedans, ça ne nous a jamais... Alors que le fait qu'on le côtoie, etc., ça aurait peut-être pu indirectement, quelque part, nous lancer et nous faire que machin, etc. Mais non. Non, non. Que ce soit Kenny, que ce soit moi, que ce soit plein d'autres personnes. Hein. Plein d'autres personnes a fait que... Voilà, on l'a laissé dans son truc. Ok, il faisait son truc. Par contre, on n'était pas dans le jugement, lui dire « Ouais, il faudrait que t'arrêtes » ou « Il faudrait que tu fasses attention » parce qu'on n'était pas dans ce... On n'était pas dans ce genre de truc. Peut-être qu'avec le recul, on se dit, avec l'âge, on se dit c'est quelque chose qu'on aurait pu faire. Mais on avait tous le même âge.
Après, ben voilà, moi, quand j'ai appris toutes ces histoires, et encore plus, ben je lui faisais un peu la morale, mais... Après, ben c'était sa vie, et puis et peut-être qu'il avait besoin d'exprimer toutes ces choses qu'il avait vécues comme ça. Au début, enfin, à la fin, j'étais pas trop au courant de... Parce que chacun avait sa vie. Donc, j'étais pas trop au courant que ça partait à l'extrême. Après, ben, je savais que même quand ils étaient tout seuls à la maison, à l'Est et Ouest, quand Antonio il était parti, ma classe, il y avait pas mal de tournus après ce qu'ils faisaient. Enfin, voilà, ça les regarde. Tant qu'ils allaient bien, qu'ils n'avaient pas trop de problèmes par les flics et puis qu'ils pouvaient vivre correctement.
Ils comptaient les billets, j'avais jamais vu ça à l'âge où on était. J'avais jamais vu ça de ma vie. Il y avait des liasses tout le temps, ils sortaient. C'était incroyable! Il avait une facilité, parce que il a toujours fait des tours de magie, Christophe. Du coup, il avait une facilité avec ses doigts de manipuler et tout. Et quand il manipulait l'argent, t'as l'impression qu'il faisait de la magie. C'était incroyable.
Ouais, bah en fait, il a pris vraiment un coup de pic d'un coup. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup non plus de trafiquants à l'époque. Il n'y en avait pas beaucoup non plus. Et du coup, il n'y a personne qui l'a balancé au début. Il n'y a personne qui l'a balancé, du coup, ça marchait.
Donc voilà, ces activités-là, je ne m'y suis jamais intéressé. J'étais ni revendeur, ni consommateur, ni quoi que ce soit. Mais oui, j'étais au courant clairement, et puis c'est lui-même qui m'en a parlé ouvertement. Après, il savait peut-être aussi que... En plus, c'est marrant parce qu'il m'en a parlé pendant la période où je travaillais à la douane. Alors voilà, j'en ai rien fait, j'aurais peut-être pu. Hein. Mais j'allais quand même pas balancer un pote, même si c'était pas quelqu'un de proche à ce moment-là. Mais c'était un pote d'enfance, enfin... Merde quoi, un peu de loyauté.
Bah, c'était téléphone arabe, hein. tout le monde savait après où aller chercher, chez qui. Du coup, Nyon, Gland, Roll, ça allait de Renan jusqu'à Genève, ils allaient chez Zouz pour se fournir en bœuf, quoi. En bœuf, un peu de shit, mais pas beaucoup, plus la bœuf. Et ça décollait vraiment bouche à oreille, vraiment bouche à oreille. Et puis il allait chercher des fois sa weed à Bienne. Il s'est fait choper dans le train, ça je pense que vous le savez. Avec un kilo presque, je crois, ou un kilo. J'étais pas là, mais je peux pas vous dire exactement combien, mais il s'est fait choper dans le train. Il prenait des risques. Comme je vous ai dit avant, il avait l'argent. Il aimait palper l'argent. Et il savait le palper. Il avait le style. Déjà, quand il était petit, il gérait.
Il y a un moment donné dans sa vie où il y a des gens de Nyon, ou peu importe, peut-être Morges, ou je ne sais pas exactement où, qui ont balancé son nom pour des histoires que lui n'était même pas impliqué, en fait. Et je sais que ça lui a créé pas mal de problèmes. Je sais qu'il y a eu genre son téléphone portable, il l'a récupéré, oh là là, mais presque un an après, des conneries qu'il avait fait, parce qu'il avait pris son téléphone, et puis, pour les moyens de l'enquête, on le garde. Mais parce qu'il s'était fait dénoncer par des gars de Nyon qui avaient donné son nom pour essayer de se dédouaner de leurs conneries qu'ils avaient fait. Et moi, je sais que ça m'avait marqué une fois, parce que c'était un gars que Zouz le connaissait quasi pas, quoi. Il n'avait jamais fait d'affaires avec lui ou quoi que ce soit, et puis... Du coup, ce mec-là avait donné le nom de Zouz parce qu'il s'était dit « Ah, Zouz, on a beaucoup parlé de lui. Il est déjà dans ce bordel-là. Allez, je donne son nom. De toute façon, ça va passer crème. » Puis lui, je sais que ça lui avait créé pas mal d'histoires avec ça.
J'avais le souvenir aussi quand même que la police était tout le temps, souvent là, quoi. Il faisait souvent les tours, quoi. De grands champs, enfin, de grands champs de la cité Ouest, il faisait tout le temps le tour.
Même les plus gros, même comment il s'appelle, Pablo Escobar, des mecs comme ça. Christophe, c'est un mec qui a grandi dans une petite ville en Suisse de 10 000 personnes. Un mec qui fait du trafic comme lui, dans le canton de Vaud, il n'y en avait pas 10. Hein. Il aurait tôt ou tard fini par se faire attraper, je le sais.
Il aurait pu être malin, ça. Plus malin sur quelques petits trucs. Des fois, il s'est fait choper... bêtement, on va pas dire bêtement, mais il s'est fait choper, quoi. Alors qu'il aurait pu un peu éviter, des fois. C'est l'argent. Mmh. C'est l'argent qui fait ça. Il voulait un peu... On va pas dire il voulait beaucoup, mais... L'argent, ça donne envie, quoi. De faire plus. Du coup, il prenait des risques.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Bah, c'est sûr. De toute façon, un jour ou l'autre, tu tombes. Tout le monde sait, hein. Un jour ou l'autre, tu tombes. Et il est tombé.
D'ailleurs, je sais pas comment il s'est jamais fait attraper chez lui, alors qu'il y en a eu des perquises chez lui, hein, d'après mes souvenirs. La fois où il s'est fait attraper, où moi, j'ai pu voir de mes propres yeux qu'il s'est fait attraper, c'était à...
C'est là-bas qu'il s'est... Il y a eu une opération de 3 ou 4 interventions partout en Suisse romande. Et une, c'était avec lui. Je sais pas combien de milliers de francs il avait dans sa poche. Tu vois, donc... c'était chaud, ça. C'était très, très chaud.
T'avais des escaliers qui partaient depuis l'extérieur, pardon, et puis tu pouvais rejoindre le premier étage et le deuxième étage, avec des escaliers en métal. Et je vois Christophe qui passe avec un sac, comme ça, de sport, par les escaliers. Et il monte les escaliers, puis il va jeter son sac dans le stock. Et là, 10 minutes après, la brigade des stupes, donc la police de Lausanne pour les trucs stupéfiants, il casse la porte. Et là, le responsable logistique, il dit « Vous foutez quoi ?» Il dit « Toi, ta gueule, il est où le mec qui est rentré avec le sac de sport ?» Puis moi, je savais très bien déjà qui il cherchait. Ils étaient 6 ou 7 ce jour-là. Et... Le responsable, à l'époque, a dit « Je vois pas qui vous parlez, j'ai vu personne rentrer. » C'est vrai qu'à ce moment-là, il y a une personne et moi qui avons vu Christophe poser ce sac dans le dépôt. Ok. Et moi, j'ai simplement dit... Enfin, j'ai sorti mon téléphone et puis j'ai dit à Christophe, j'ai écrit sur mon téléphone, j'ai dit « Ils sont dans le bâtiment, fous le camp. » J'ai éteint mon téléphone, j'ai mis dans ma poche. Il commence à chercher un peu partout, il trouve pas le sac. Ils ont cherché, donc je pense qu'il a quand même bien caché rapidement. Il savait déjà où il allait le mettre. Ensuite, il dit « Bon, bah c'est pas grave, on va vous questionner. » Et puis moi, j'ai simplement dit « Monsieur, on a mieux à faire que répondre à vos questions. On ne voit pas de quoi vous parlez, on a du boulot. Bon, vu que vous aboyez, monsieur, vous allez venir, vous, avec moi en premier. » Donc ils m'ont pris. Il y avait une femme et un homme qui m'ont interviewé dans une pièce, dans un bureau caché, dans la logistique. Ils m'ont dit «
C'est bizarre parce que vous ressemblez énormément au profil recherché. Dans ma tête, je rigolais parce qu'il cherchait un basané avec des cheveux bruns qui était à l'époque, enfin même toujours maintenant, beaucoup plus fin que moi. Je rigolais dans ma tête. J'ai dit, ah bon, d'accord, je correspond au profil recherché, d'accord. Il m'a dit, est-ce que vous connaissez un Zouz? J'ai dit, non, je connais pas de Zouz. Okay. Et moi, dans mon téléphone, c'est démarqué Zouz. Et eux, ils savent très bien l'expression des gens quand il y a la peur qui est là, ils arrivent à comprendre ce genre de personnes. Du coup, ils m'ont dit, bon, bah, alors, si vous ne dites pas tout ce que vous savez maintenant, vous allez tout prendre pour lui. J'ai dit, ben, il n'y a pas de problème, j'ai rien à me reprocher. Et à ce moment-là, il y a le patron qui rentre dans la pièce. Puis il dit, messieurs, je peux vous aider, enfin, qu'est-ce qui se passe, etc. Écoutez, vous restez en dehors de ça, la police dit au patron. Puis il continue à me poser un tas de questions, etc. Puis je voyais le patron qui était là, qui regardait comment j'allais me défendre par rapport à ça. Puis à un moment donné, je regarde mon patron, puis je lui dis, c'est bon, on va pas rester toute la nuit ici. Puis là, il me regarde, il fait, ouais, on connaît bien un Zouz. On connaît bien un Zouz, il travaille ici. Et là, le mec, il a complètement lâché l'affaire avec moi, il m'a dit, il est où? Il me dit, on va pouvoir vous le trouver. Puis la dame derrière, elle a dit, on n'a pas fini avec toi, on aimerait voir ton téléphone. Et moi, dans ma tête, je dis, merde. Je suis dans le droit de refuser, mais si je refuse, c'est que j'ai quelque chose à me reprocher. Du coup, elle prend mon téléphone. Le monsieur, il regarde comme ça, enfin, le policier, il regarde. Puis il voit un message qui a été envoyé au préalable, 15 minutes avant, quoi. Il regarde, il fait... c'était marqué Christophe. Ils sont là, quitte le bâtiment. Le message envoyé avant. C'est qui, il? C'est qui, Christophe? Il a posé le téléphone, les mecs, ils sont partis dans le bâtiment à une vitesse. Ils sont rentrés en bas dans les bureaux, dans l'espace, premier étage où il y avait tous les bureaux. Ils ont dit, on cherche Christophe, etc. Puis ben, Christophe, il était obligé de se montrer. Donc, il s'est montré, il a dit, ouais, c'est moi, je suis là. Du coup, les menottes au bureau, ils l'ont emmené dehors et tout ça, ils l'ont emmené. Il est parti par le quai de chargement avec la voiture de police, puis ils l'ont emmené directement au poste de police. Et moi, je me rappellerai toujours, ce jour-là, il m'a dit qu'il avait perdu 30 000 francs, ce jour-là. Et moi, je me sentais un peu responsable, en fait, de cette perte d'argent, puis pas de cette perquisition, mais le fait qu'il se soit fait attraper ce jour-là. Je pense que, on en a déjà parlé plein de fois, hein. Il me dit, mais non, c'est normal, t'as averti. Certes, j'ai averti, mais pour le coup, j'ai pas été très malin. Parce que j'aurais pu envoyer ce message et puis le supprimer. Mais moi, jamais j'aurais pensé qu'à un moment donné, ils allaient prendre mon téléphone. Il y avait 60 personnes dans le bâtiment. Pourquoi moi? Donc du coup, j'ai voulu couvrir mon ami. Mais en même temps, c'est peut-être ce jour-là, à cause de moi, qu'il s'est fait prendre. À cause de moi, je sais pas. Ils étaient déjà dans le bâtiment. Ils auraient fini peut-être par le trouver. Enfin voilà, ça n'excuse pas. Enfin, je sais pas. J'ai un peu un cul entre deux chaises dans cette affaire-là. Mais tôt ou tard, il aurait de toute façon fini par se faire attraper. Donc, si un jour t'entends ce reportage, frérot, désolé. Hein. Même si t'es déjà au courant.
Avant de se faire péter, il avait du cash pour pouvoir se barrer en Thaïlande ou je sais plus où.
Et pourquoi il voulait partir en Thaïlande, hein?
Je sais pas, je crois peut-être sa life. Ça me ferait rebondir sur l'anecdote que Christophe me disait Kev, par rapport à cette date de quand il s'est fait enfermer, quand il y a eu tous ces événements. À chaque fois, en fait, les événements un peu marquants après dans sa vie, comme, sauf erreur, son arrestation, était le jour du décès de sa maman, de ce qu'il m'a dit. Le jour de quand il s'est fait incarcérer avec tout le truc, c'était le jour du décès de sa maman, comme s'il y avait quelqu'un qui disait « Mon gars, si elle est pas là-haut, ou s'il n'y a pas un signe pour te faire comprendre que soit tu te réveilles, mon fils, parce que tu vaux mieux que ça, tu vois, ou un truc, prends le droit chemin ou quoi, tu vois. » Mais j'espère que là, en tout cas, de par ce qui est fait pour lui, et puis son mindset, tu vois, dans sa tête, bah, il peut se dire, bon, vas-y, j'en ai plus rien à foutre. Oui, quelque part, mais je me laisse vivre, quoi, et j'ai les capacités de faire tout et n'importe quoi, malgré mon handicap. De sortir peut-être de cette zone d'handicap parce que on t'a mis une étiquette et de se dire non mais t'es quand même Christophe, t'as une vie, t'as des potes et puis tu peux aussi avoir des ambitions malgré tout. Tu peux créer dans tout. Ça c'est un peu un message, ouais.
Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais c'est, ouais, le 4, ma mère elle est morte le 14 janvier 2004. Le 14 janvier 2004, elle est décédée et des années après, ça de nouveau ma mémoire, je pourrais pas te dire, mais après 2000, je pense, je dirais 2013 peut-être par là, je faisais des conneries tout le temps, mais c'est vrai que le 14 janvier, je me disais, c'est le jour du décès de ma mère, évite de faire des conneries ce jour-là. Et puis même ce jour-là, bah, je faisais des conneries, tu vois. Et le 14 janvier, bah, je ne me rappelle pas quelle année c'était, mais je pense 10 ans après, en tout cas, le décès de ma mère, ouais, 8-10 ans, ouais. Bah, c'était le 14 janvier, mec. C'est exactement ce qui s'est passé. J'étais dans le taxi le chinois, mec. Enfin bref, un taximan, quoi. On s'en fout, on ne devrait même pas dire qui c'est. Mais le taximan de Gland, qui m'a pris dans la voiture, il sait pas ce que je fais, mais je l'ai appelé, je lui ai dit viens me chercher, il me ramène à la gare, il vient me chercher à la Cité Ouest, il me ramène à la gare, et après je sais pas si tu veux que je te raconte dans les détails, mais le manque de chance. Donc je sors du taxi, je vois comme par hasard la voiture de flic qui arrive doucement, et comme d'hab il roule tout doucement, et moi je me dis tranquille, moi je paniquais jamais, en plus j'avais pas de panique à l'époque, mais je vois les keufs, et j'avais 500 grammes d'herbe, deux packs de 250 grammes. Et bref, quand je marche comme ça, je me retourne, je vois les flics. Et au bout d'un moment, quand j'arrive à côté du bâtiment, bah forcément, je vois plus la route, donc je vois plus les flics. Mais là, je ne me suis pas posé de questions. Et d'un seul coup, il y a deux flics qui arrivent en courant vers moi, mec. Et ils me foncent dessus, ils m'arrachent le sac à la main. Donc c'est un sac plastique avec deux sacs poubelles dedans, enfin des petits sacs de 250 grammes. Le gars il ouvre le sac, il regarde dedans, il le jette, il dit ah c'est pas lui, je sais pas quoi, je sais pas ce qu'il dit, puis il repart en courant. Mais ça s'est passé tellement vite. Donc moi j'étais en deux secondes, ah il arrache le truc, ah c'est pas lui. Hein. Et moi j'étais en pleine panique, je me dis qu'est-ce qui se passe. Deux secondes, il revient en arrière, il dit non, regarde quand même ou je sais pas quoi. Ils prennent le sac, il ouvre, il voit qu'il y a de la weed dans les sacs, il ouvre un autre sac dedans, il voit qu'il y a de la weed. Bref, il lui embarque le mec, il m'embarque, mais vite hein. Et il m'embarque et il continue à tourner et il cherche quelqu'un. Il est là pendant que j'étais dans la voiture. Il reçoit un appel là, mais leur truc qui sonne. Et j'entends, c'est bon, on a retrouvé le gars. Et bref, il nous amène les deux au poste à Gland. Et le gars, c'est un rebeu qui a une tête d'arabe aussi, mais la même veste que moi. La même veste qui vient de chez H&M ou je sais plus. La même veste Bordeaux. Et en fait, les flics, ils cherchaient un gars avec une veste Bordeaux qui avait volé un sac à main. Et quand les flics, ils m'ont attrapé. Soit ils ont regardé dans le sac, ils ont vu deux petits trucs en bleu, ils ont dit il n'y a pas de sac à main là-dedans, et ils l'ont jeté par terre. Et c'est là qu'ils allaient me lâcher, mec. Trois secondes après, ils sont venus. Enfin, t'as capté vraiment le manque de chance. Et ça, c'était un 14 janvier, justement. Et bref, le 14 janvier de l'année d'après, c'est là que je me suis fait attraper. Mais c'est ouais, une année après, encore une fois, le 14 janvier, je me suis fait attraper avec des grosses quantités, et c'est là que j'ai pris cher. Beaucoup d'argent et beaucoup de quantités.
Ah, c'est fou.
C'est incroyable, hein. C'est un truc de fou. Le 14 ans, écoute, ça veut dire, fais attention, tu sais. Je suis morte, mais je te mets des tartines quand même, tu sais. Tu fais des conneries, je te mets des baffes, tu sais. Mais c'était vraiment le 14 janvier, ouais. Ça je me rappelle. C'est fou, hein.
Ouais. Bah, il avait plus pas de limite, tu vois, il était... Honnêtement, on a l'impression qu'il avait peur de rien, il s'en foutait de tout, Christophe, dans son attitude. Il avait une attitude de... Ben, il a toujours été un peu sanguin, Christophe, tu vois, depuis gamin, t'es d'accord, tu vois, il était un peu nerveux et tout, tu vois, mais quand sa mère, elle est partie, ça a changé quand même un sacré truc en lui, hein. On va pas dire le contraire, hein. Sa mère, ça a brisé quand même quelque chose en lui, hein. Pour que tout ça se passe non, aussi... Ouais. Et pourtant, c'est quelqu'un de talentueux, hein. Intelligent, il a une facilité dans plein de trucs, il est fort, ce garçon, tu vois.
Les Contes de la Cité Ouest, un podcast écrit et réalisé par David Janelas. Musique, Virginie Janelas. Coproduit par le théâtre Forum Mérin et Radio Bascule.